Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous et bonjour aux grandes voix. Aujourd'hui, Charles Villeneuve, Michel Cotta et Gérard Carrérou. Bonjour à vous.
Bonjour.
C'est intolérable et nous tenions à la dénoncer ici dans les grandes voix d'Europe 1, ces insupportables menaces de mort à l'encontre de notre consoeur de M6 et folie Ophélie Meunier ainsi que d'un témoin. Après la diffusion d'un reportage de Zone Interdite sur l'islamisme radical à Roubaix, reportage montrant des poupées sans visage et ce livre promouvant la défense de l'islam par les armes. Les images ont choqué, vive émotion au sein de la ville. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a certes tweeté le 29 juin que tout journaliste attaqué fera l'objet d'une protection policière. Mais sur le fond de cette affaire, le gouvernement n'a-t-il pas échoué sur le régalien? Nous poserons la question aux grandes voix. Comme tous les samedis, les carnets de campagne des grandes voix. À droite, Valérie Pécresse dans la peau de Jacques Chirac, en mode « bonjour la meumeu ». Plus à droite, la guerre continue entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. La première le rangeant parmi les nazis, alors qu'à gauche, c'est toujours la débandade. Taubira, notamment après ce grand oral loupé auprès de la Fondation Abbé Pierre. Il y en a un en revanche qui, sans difficulté, a rassemblé plus de 500 signatures. C'est Emmanuel Macron et pourtant il n'est toujours pas officiellement candidat. L'Ukraine, la présidence du Conseil européen, le chef de l'État est très présent diplomatiquement mais plutôt silencieux sur les affaires internes. Un super président européen qui va convaincre les électeurs ou au contraire un président hors sol qui va le couper de la population. Enfin, la France doit-elle quitter le Sahel? 9 ans de présence militaire, 5000 hommes déployés dans la lutte anti-djihadiste. La question se pose d'autant plus après l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali et des manifestations anti-françaises à Bamako. Le risque c'est quoi? Un fiasco comme l'Afghanistan pour les États-Unis? Vous avez le programme, le débat des grandes voix, c'est parti. Le 30 janvier, le juriste Amine Elbaï et la présentatrice de M6, Ophélie Meunier, ont été placés sous protection policière suite à plusieurs menaces de mort. Menaces de mort suite au reportage de Zone Interdite montrant un islamisme radical répandu dans les rues de Roubaix et s'interrogeant sur les réponses de l'État. Les sociétés des journalistes du groupe M6 leur ont apporté le plein soutien. Idem pour les sociétés des journalistes du Figaro, du Monde, de Radio France, de France 2, de BFM TV, d'Europe 1, L'Express et Le Monde ont publié des éditoriaux de soutien. Jean-Marc Morandini a proposé de diffuser ce reportage de M6 sur CNews, tandis que Le Point écrivait « Nous sommes tous Ophélie Meunier et Amine Elbaï ». Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé en effet avoir donné l'instruction qu'à chaque fois qu'un journaliste fait l'objet de menaces caractérisées, il bénéficie d'une protection policière. Il rajoute « Les auteurs seront trouvés ». Mais cette affaire, ce reportage d'M6 qui visiblement dérange, Charles Villeneuve, ce reportage et toute cette affaire, c'est très grave.
Oui, c'est très grave parce que on s'aperçoit que la pandémie a masqué la réalité de la progression, notamment de l'intimidation islamiste. Rien, finalement, ne s'est ralenti malgré la pandémie. Et ce reportage démontrait parfaitement qu'on ne peut pas dire, si vous voulez, que Roubaix est devenue une zone de non-droit. Non. Mais que certaines rues, dans certaines rues, régnait une ambiance qui n'était pas très gauloise. Au contraire. Là, vous avez fait allusion à ces poupées sans visage. Il faut savoir qu'elles sont fabriquées en Arabie Saoudite, qu'elles sont importées par une société lyonnaise et que vous les retrouvez pas seulement dans une rue ou dans des rues commerçantes de Roubaix, mais aussi à Lyon, mais aussi à Marseille, là, du côté de la Porte d'Aix, pour ceux qui connaissent Marseille, etc., etc.
Il y a une raison pour laquelle elles n'ont pas de visage, hein, d'ailleurs, Charles.
Oui, parce que, si vous voulez, Allah, c'est Allah qui crée. C'est d'ailleurs ce que dit la vendeuse dans le reportage de M6, présenté par Ophélie Meunier, et où abonde un témoignage qui est très intéressant, qui est assez fort, d'ailleurs d'Amine Elbaï, qui est un juriste d'origine de Roubaix, et qui lui dénonce de manière assez précise, sans ostentation, la force de la présence islamiste. Et c'est ça aussi qui est intéressant, qui fait l'intérêt de ce reportage. Mais ce que démontre ce reportage, et surtout les conséquences, c'est qu'on assiste à l'extension du domaine de l'intimidation islamiste. Et il y a plus de 100 personnalités, journalistes, avocats, littéraires, écrivains, éditorialistes, qui reçoivent aujourd'hui, qui sont soumis à une protection, c'est très lourd, une protection policière, parce qu'elle est constante, elle est quotidienne, et ça dure depuis des mois, il y a 7 ans. Que la rédaction de Charlie Hebdo a été massacrée. Oui. 7 ans. Oui. Et en fait, justement, la mobilisation de l'époque n'a rien freiné, malheureusement. Alors qu'elle était massive, qu'elle était politique et qu'elle avait rassemblé un certain nombre de chefs d'État.
Gérard Carrérou.
Oui, moi j'avais envie de, au début de parodier Bernanos. C'était un peu ce que j'ai vécu, comme beaucoup d'autres. C'est le grand silence des bien-pensants. Parce qu'il a fallu, vous avez rappelé, heureusement, que la machine finalement s'est mise en marche. Mais elle s'est mise en marche un peu lentement. Mmh. Je veux dire par là, la machine d'indignation oui. de ce qui s'était passé. On a eu le reportage, on a eu les images à la télévision, reprises par un certain nombre de chaînes. Et puis finalement, pas grand-chose. Alors qu'il eût été nécessaire d'avoir un immense mouvement d'indignation pour dire, mais enfin, comment, dans ce pays, si on est aveugle, si on ne veut pas voir la vérité, tout va bien. Mais si on veut voir la vérité, ce que beaucoup des millions de gens voient au quotidien, chez eux ou près de chez eux, si on le dénonce à la télévision, si on le montre, on le dénonce même pas, on n'a pas besoin de le dénoncer, on le montre. Si on le montre à la télévision, bon, bah ça passe comme si. Alors moi, pour moi, c'est simple. C'est Roubaix aujourd'hui, c'est l'image d'Épinal de la soumission à la française. Soumission. Ce mot a été quelque part le premier qui l'a véritablement employé. On en avait parlé pendant une heure ici. C'est Michel Houellebecq, il y a 7 ou 8 ans, lorsqu'il a fait ce beau livre, Soumission.
2015.
Eh bien, c'est exactement la soumission à la française, préfigurée par Houellebecq. Et c'est exactement, qu'est-ce que c'est que la soumission à la française? C'est la multiplication au quotidien de ce qu'un autre philosophe, Pierre Manant, a appelé les accommodements raisonnables avec l'islam. Les accommodements raisonnables, ça veut dire il faut quand même leur faire un peu une petite place, il faut quand même leur laisser faire ce qu'ils veulent dans les piscines, il faut laisser un peu ce qu'ils veulent en termes de port du voile, un peu ce qu'ils veulent en termes de ceci. Et ça, à force d'accumuler les accommodements raisonnables, eh bien, on a Roubaix. On a la ville. Et Roubaix, c'est l'esquisse, et je me terminerai là-dessus, c'est l'esquisse d'une petite république islamiste de France.
Oui, je vous rappelle que le livre de Michel Houellebecq, Soumission, devait sortir le 7 janvier 2015, le jour où on a les attentats de Charlie Hebdo, et que du coup, il avait été décalé, bien sûr, d'un mois. Et il était étonnamment, j'allais dire, prédictif sur plein de choses.
Alors, simplement pour revenir sur Roubaix, moi je suis tout à fait d'accord, c'est épouvantable, et d'ailleurs, cette ville où... Puis ces poupées sans visage, en réalité, c'est Mahomet qui doit être sans visage, c'est pas des poupées dans la religion, en plus c'est idiot, en plus. C'est vraiment idiot, c'est une opération islamique imbécile, parce que... Deuxièmement, Roubaix, le maire de Roubaix n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire le maire de Roubaix, d'abord, il appartient quand même à l'opposition et à LR,
aux républicains.
Bon, donc, et il est compromis dans beaucoup d'histoires de fond. Donc je me dis que quand même, il y a une particularité de Roubaix. C'est moi, je veux bien qu'on fasse des procès régaliens à Emmanuel Macron, mais en l'occurrence... On aurait pu faire depuis longtemps des procès régaliens au maire de Roubaix, d'abord. Ensuite, c'est insupportable, je suis tout à fait d'accord avec Gérard. Ça, ce n'est pas des petits accommodements, c'est des gros accommodements.
Mais est-ce que c'est une zone de non-droit, comme justement Charles Villeneuve avait des réserves là-dessus?
Oui,
la ville de Roubaix.
Oui et non.
Mais Valérie Pécresse
non,
a déclaré que c'était une zone de non-droit. Enfin,
oui, mais oui et non. On peut dire qu'il y a certains quartiers de Roubaix. Qui sont effectivement des zones de non-droit, mais pas tout. Comme d'ailleurs, le problème est là, au
zone
fond. Le problème est qu'il n'y a pas un endroit dans la France qui soit hors de tout droit.
Il n'y a pas des pancartes de non-droit, ça
voilà.
C'est clair.
Oui, oui, oui. N'entrez pas ici non-droit. Le problème, c'est que certains quartiers, effectivement, et que certains maires, pardon, mais certains maires négocient.
Ça commode.
Bon, il faut le dire.
Pour des raisons électorales.
Y compris en Île-de-France, on connaît des maires républicains ou autres, qui, je ne dirais pas de nom, mais qui donnent dans le même édifice, dans le même étage, des logements à toutes les femmes, aux multiples femmes d'un seul homme. Vous voyez, c'est interdit par la loi quand même.
Oui.
C'est interdit par la loi.
Je voudrais dire un mot sur le maire.
C'est un aménagement vraiment financier. Financier et politique et religieux. Et ça, je trouve qu'on ferme les yeux encore beaucoup plus là-dessus. Alors très bien, Roubaix nous les a ouverts, profitons-en.
Alors je voudrais dire un mot sur le maire, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion, parce que moi-même, je suis quand même de la politique comme nous tous depuis un certain temps, j'ai moi-même au départ fait la confusion, parce que le maire de Roubaix s'appelle M. Delbar.
Guillaume Delbarre.
Nous l'avons vérifié, mais effectivement, il y a eu un Delbarre qui a été célèbre, qui a été ministre socialiste, ministre de Pierre Mauroy, un homme éminemment respectable.
Ah bah ça ne peut pas être le
même. Mais j'ai pensé, comme c'est dans la même région,
Delbarre était directeur
voilà,
de cabinet.
J'ai pensé au début, je me suis dit, c'est pas possible. Parfois, on peut avoir un rejeton qui ne soit pas à la hauteur, mais je me suis dit, c'est pas possible que ça soit le fils de Michel Delbarre. Eh bien, non, ce n'est rien à voir. Ça s'écrit D-E-L-B-A-R, oui. Mais ce monsieur Delbarre, il faudrait, maintenant, au-delà de son nom, il faudrait regarder un peu de près, parce que maintenant, il s'est mis extrême droite. Il s'est sorti de LR.
Un dernier mot sur le sujet avec Charles Villeneuve, et après, on passe au carnet de campagne.
La problématique, comme on l'a tous remarqué, n'est pas nouvelle. Simplement, la gravité de cette problématique, c'est qu'elle empire, elle s'étend. Et manifestement, l'enseignement islamiste, lui aussi, s'étend. Et je dirais, se répand. Et c'est ça le problème. C'est très difficile à stopper, à arrêter, parce qu'on a dépassé, si vous voulez, un point grave qui fait qu'on ne sait plus très bien comment prendre le problème.
C'est plus difficile de revenir en arrière à ce stade. Charles Villeneuve, Michel Cotta et Gérard Carrérou reviennent dans un instant. Ce sont les carnets de campagne des grandes voix. À tout de suite.